Europe 1.
Ondelatte raconte.
Christophe Ondelatte.
Sur le papier, c'est une histoire exotique que je vais vous raconter. Exotique parce que le crime se déroule sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles. Sauf qu'elle met en scène un tueur en série. Un type qui a tué au moins 5 personnes et peut-être 10, voire 17. Il s'agit de l'enquête sur l'assassinat en 2006 d'une jeune Française qui s'appelait Angélique Chauviré. Pour le débrief, je ferai appel à maître Sandra Chirac-Colaric, avocate de la partie civile dans cette affaire, interview à retrouver dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
En théorie, cette histoire se déroule au paradis, l'île de Saint-Martin, l'une des perles de la Caraïbe. C'est une île rigolote, Saint-Martin, car figurez-vous qu'elle est à moitié française et à moitié hollandaise. Deux propriétaires pour un confetti de 95 km². Rassurez-vous, il n'y a pas de poste frontière. Ça va, ça vient des deux côtés. Mais il y a bien deux pays, et donc deux polices. Et ça va être la plaie de cette histoire. D'autant que derrière les cocotiers et les plages de sable fin, Saint-Martin n'est pas vraiment un paradis. C'est pas Chicago non plus, mais quand même. Au moment où débute cette histoire, il y a eu l'année précédente 17 meurtres à Saint-Martin. 17 meurtres pour 75 000 habitants. Le paradis, qu'il disait. Cette histoire débute en mai 2006, au moment où Yves et René Chauviré, deux retraités, débarquent à l'aéroport de Saint-Martin en provenance du Maine-et-Loire. Ils ne viennent pas se dorer la pilule, enfin pas seulement. Ils viennent voir leur fille, Angélique, 30 ans, qui vit là depuis 7 ans et une traversée de l'Atlantique à la voile. Ils ne l'ont pas vue depuis 4 ans. Et en plus, c'est la fête des mères. Et donc, bisous bisous, comment ça va ma chérie, t'as de belles couleurs, mais qu'est-ce qui fait chaud ici, etc, etc. Je vous ai pris un appart près de la mer, avec une terrasse, tout ça, que vous preniez un peu de bon temps, quoi. Oh, ben rassure-toi, on va profiter, mais bon, on est quand même venu ici pour te voir. Ah mais j'ai pris quelques jours de congé pour vous faire visiter l'île, on va se voir tout le temps. Quatre jours plus tard, Angélique et ses parents ont rendez-vous pour déjeuner dans un restaurant en port de mer. Ça papote, et au dessert, avec cette chaleur, les parents annoncent qu'ils vont faire une petite sieste. Ah ben ça tombe bien, j'ai une course à faire. On se retrouve ce soir, comme on l'a dit, à Grand Caz, hein, chez mon pote David que je vous ai présenté avant-hier. On dînera tous ensemble. Allez, bisous. Bonne sieste. Angélique monte dans sa voiture et en route, elle appelle le fameux copain David.
Oui, comme je t'ai dit, je serai avec mes parents. Hein. Ça t'embête pas?
Ah mais non, au contraire. À tout à l'heure, Angie.
À tout à l'heure, salut.
À partir de ce moment-là, Angélique disparaît. Et les premiers à s'en apercevoir, forcément, ce sont les parents et son pote David.
Enfin, qu'est-ce qu'elle fiche? Elle devrait être là depuis une heure. Tu l'as rappelée? Mais je fais que ça, ça sonne dans le vide. Je laisse à chaque fois un message, elle ne le rappelle pas.
Et voilà quoi. Ils dînent, ils l'attendent toute la soirée. Et elle ne vient pas. Quand le soleil se lève, le lendemain matin, les parents n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Et la première chose qu'ils font, c'est d'appeler les amis d'Angélique.
Ça lui ressemble pas du tout, ça. Mais bon, j'ai strictement aucune idée de là où elles peuvent être.
Les amis envisagent alors un accident de voiture. Alors ils appellent les urgences de l'hôpital, elle n'y est pas. Et puis c'est la patronne d'Angélique qui appelle, une boutique de bijoux. Angélique y est vendeuse.
Elle n'était pas là ce matin à l'ouverture, elle n'a pas prévenu. C'est quand même surprenant de sa part, hein, parce que c'est une fille sérieuse, hein, Angélique.
Les parents savent, ça, qu'elle est sérieuse. Et ça les inquiète d'autant plus. Heureusement, ils ne sont pas tout seuls, les amis d'Angélique se mobilisent. Bon, je propose qu'on se sépare en petits groupes et qu'on balise toute l'île. On devrait au moins retrouver sa voiture. Il ne trouve rien. Et maintenant, ça fait 24 heures qu'elle a disparu. Je connais un journaliste au Pélican. On peut peut-être lui demander de faire passer un avis de recherche. Il y a forcément quelqu'un qui l'a vu. Le Pélican, c'est le petit journal francophone de Saint-Martin. Il publie une photo et la description complète d'Angélique. 30 ans, 1m80, les yeux bleus, les cheveux châtain clair, et wait and see. Là-dessus, les amis finissent par retrouver la voiture, dans un coin paumé, côté français de l'île. Mais alors, ce qui est inquiétant, c'est que elle a été accidentée, cette voiture. Elle est complètement cabossée. Et c'était pas le cas avant, parce que moi j'ai vu Angélique la veille de sa disparition. Sa voiture était impeccable. Et puis j'ai trouvé que les sièges étaient très reculés. Bon, elle est grande, hein, Angélique. Mais quand même pas à ce point-là. Ça, franchement, je trouve ça très inquiétant. C'est comme si quelqu'un d'autre avait conduit sa voiture, quoi. Et c'est là que les parents décident d'aller voir les gendarmes. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les gendarmes ne prennent pas du tout l'affaire à la légère. Parce qu'ils savent, eux, que derrière la carte postale, Saint-Martin est une île moyennement cool. Ils inspectent la voiture de fond en comble, rien. Alors ils vont chez elle. Il n'y a rien de particulier, hein. Il n'y a pas eu de bagarre ici, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de vol, j'ai l'impression. RAS, quoi. Bon, écoute, on va faire passer les éléments qu'on a à nos amis hollandais. Et puis on va voir, quoi. Le lendemain, le corps d'une jeune femme est retrouvé par des randonneurs près de la plage de Down Beach, dans la partie néerlandaise de l'île. Les policiers néerlandais vont sur place et ils découvrent le cadavre à moitié. Oh mon Dieu, elle a été massacrée, hein. Elle a le crâne défoncé et toute la partie gauche du visage est en bouillie. On a dû utiliser la grosse pierre qui est là, non ? Probablement. La pierre est collée à sa tête. Mais c'est pas tout. Mais qui a pu faire un truc pareil ? La violer comme ça ? On l'a violée avec une branche d'arbre qui est plantée dans son sexe. Elle est terrible, cette scène de crime. Le carnage sur le visage, la branche. Celui qui a fait ça est un sacré taré. Les policiers néerlandais, bien sûr, préviennent tout de suite leurs homologues français.
Le corps correspond aux éléments que vous nous avez transmis, hein, concernant cette jeune Française qui a disparu, Angélique Chauvire, c'est ça ?
Chauviré. Angélique Chauviré. Et Et c'est là que s'installe l'une des difficultés de l'enquête qui commence. Angélique, si c'est elle, mais c'est elle, a été tuée côté néerlandais de l'île. C'est donc la police néerlandaise qui va mener l'enquête, sous l'autorité de la justice néerlandaise. Les gendarmes français, pour l'instant, vont se taper le sale boulot, aller annoncer la nouvelle aux parents qui étaient venus 15 jours du Maine-et-Loire pour voir leur fille chérie. Elle a été assassinée. Assez vite, les policiers néerlandais établissent qu'au moment de sa disparition, Angélique avait sur elle une grosse somme d'argent liquide. Presque, disent les amis, elle avait retiré 1000 euros le matin même pour payer la location de l'appartement où logeaient ses parents. Et ces 1000 euros ont disparu. Ce qui ouvre un mobile. On la vole, elle se défend, on la tue. Sauf qu'on n'a pas fait que la tuer, on l'a massacrée à coups de pierre. Et puis il y a cette branche plantée dans son sein. Quel rapport avec les 1000 euros ? D'autant qu'il y a une autre piste, à laquelle les policiers néerlandais et les gendarmes français aussi d'ailleurs, pensent tout de suite. La drogue. Saint-Martin est une plaque tournante pour le trafic de cocaïne, une étape entre l'Amérique centrale et l'Europe. Était-elle en lien avec la mafia de la coke ? Les copains pensent que non, mais ça reste une piste. 17 morts par an sur l'île de Saint-Martin, ça vient souvent de là, de la dope. En attendant, cette affaire secoue beaucoup les habitants de Saint-Martin. Une semaine après la découverte du corps, ils organisent une marche blanche, un hommage à Angélique. Mais pas que. Une manifestation de colère aussi, face à la violence qui gangrène Saint-Martin. Il faut que les autorités comprennent qu'on n'en peut plus de tout ça. Il y a tout pour être heureux ici. Et la mafia de la drogue qui sévit dans l'île pourrit la vie de tout le monde. Le corps d'Angélique est rapatrié en métropole et elle est inhumée dans son village de Gesté, dans le Maine-et-Loire. Pendant ce temps-là, à Saint-Martin, la police néerlandaise poursuit son enquête. Avec le soutien de la gendarmerie française, bien sûr. C'est quand même côté français que la disparition d'Angélique a été signalée. Les Français sont notamment chargés d'entendre les amis et de reconstituer avec eux l'emploi du temps d'Angélique dans les heures qui précèdent sa disparition. Est-ce qu'à votre connaissance, elle avait des liens avec les milieux de la drogue, ici, à Saint-Martin ? Angélique ? Pas du tout. Est-ce qu'il est possible qu'une partie de ses relations ici à Saint-Martin ne soit pas connue de vous ? Des choses qu'elle vous aurait cachées, quoi. Je crois pas. Mais bon, Angie, c'était une fille très, très sociable. Elle parlait à tout le monde. Alors je peux pas vous jurer qu'elle connaissait pas des gens qui gravitent dans ce milieu, mais ça m'étonnerait quand même. À part ça, il y a un élément à exploiter. L'appel téléphonique qu'elle passe à son copain David juste après avoir quitté ses parents pour ce rendez-vous dont elle n'a rien dit. Bon, elle a appelé son copain David à 14h33. D'après lui, la conversation a porté sur le dîner du soir avec les parents. Rien de plus. Au moment de l'appel, son téléphone a borné ici, tout près de la frontière néerlandaise, sur la commune de Cartier d'Orléans. Cartier d'Orléans, c'est un village de 5000 habitants sur la Nationale 7, la principale route de Saint-Martin. Un taux de chômage de 35%, près de 50% chez les jeunes. Est-ce que quelqu'un a vu Angélique là-bas, le jour de sa disparition. Moi, je l'ai vu, en début d'après-midi. Elle discutait avec un groupe de jeunes, sous cet arbre là-bas. C'est un endroit où les gamins d'ici se donnent rendez-vous. Il était quelle heure, vous vous souvenez? Aux alentours de 2h30, je dirais. Les gendarmes retournent voir les amis. À votre connaissance, elle fréquentait les jeunes de ce village? Je vous l'ai déjà dit, Angélique, qu'elle parlait à plein de gens ici, pas qu'aux expatriés de la métropole. Donc c'est pas normal qu'on l'ait vue à Quartier d'Orléans. J'ai envie de dire, quand on connaissait Angie et l'intérêt qu'elle avait pour les gens d'ici, c'est normal, quoi. Retour à Quartier d'Orléans, car d'autres habitants du village l'ont vu. Oh, moi je l'ai vu partir au volant de la voiture. J'ai quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Elle avait l'air de suivre une autre voiture. Ah, intéressant. De quelle marque, vous vous souvenez? Une Jeep. C'est un homme, il la conduisait. Vous l'avez vu, cet homme? Ah non, je le connais pas. Une Jeep? C'est une chance, c'est pas si courant à Saint-Martin. Les gendarmes se penchent sur le fichier des cartes grises. J'ai peut-être quelqu'un. Un gars qui s'appelle Catron Fortune, 29 ans, originaire de l'île de la Grenade. Ça fait quelque temps qu'il est établi ici, et d'après mes informations, il fréquente pas mal le quartier d'Orléans. Il a une Jeep, et il est très connu là-bas. Connu comment? Ben, connu comme le loup blanc, j'ai envie de dire. Bon, d'abord, physiquement, il passe pas inaperçu, hein, c'est une armoire à glace. Et puis, d'après ce qu'on me dit, c'est un gros fêtard, le genre de type qui loupe pas une soirée. Une grande gueule, pour résumer, assez populaire dans le coin. Les gens, en général, l'appellent par son surnom. Cucci. Enfin, une piste qui tient la route. D'autant plus que d'après des habitants de quartier d'Orléans, ils connaissent cette Angélique depuis quelques mois. On les a vus dans les mêmes soirées. Ils n'étaient pas amis, et encore moins amants, mais ils se connaissaient. Et, cerise sur le gâteau...
Bon, j'ai eu des collègues néerlandais. Figure-toi que ce Catron Fortune a un casier judiciaire. Et il vient de sortir de prison. Pour, écoute bien, attaque à main armée... détention d'armes à feu et extorsion de fonds.
Ah oui, c'est peu dire qu'il a le profil. Les gendarmes français voudraient bien l'arrêter, bien sûr, et l'interroger. Sauf que je vous l'ai dit, ce sont les Néerlandais qui mènent cette enquête. Il n'y a qu'eux qui peuvent l'interpeller, surtout s'ils crèchent de leur côté de l'île. Et c'est là que cette enquête commence à patauger, à cause de cette mauvaise communication entre la justice hollandaise et la justice française. Il existe un système de coopération judiciaire, mais il est long à mettre en route, beaucoup trop long. Et donc on a un suspect sérieux, mais pour l'instant, ah ben il va à la plage. Bon, il y a du nouveau. Les Hollandais viennent enfin d'arrêter Catron Fortune. Mais dans une autre affaire, pas piquer des hannetons, celle-là non plus. Bon, d'après ce qu'ils m'ont dit, il serait impliqué dans le meurtre d'un certain Erwin Margaritin, 22 ans, un jeune d'ici, dont le corps a été retrouvé criblé de balles sur un terrain vague. Et le mobile? Ils ont une idée? La drogue? Non, pas sûr. Il se serait contenté de lui voler une paire de baskets et une chaîne en or. Et ça s'est passé quand, ça? Eh ben, 3 semaines avant le meurtre d'Angélique Chauvirin. Les gendarmes sont maintenant quasi certains que c'est lui qui, 3 semaines plus tard, a tué Angélique. Il rêverait de le placer en garde à vue et de l'interroger. Mais ça n'est pas d'actualité. D'autant plus que les Hollandais viennent de lui coller un autre meurtre.
Thank you.
début 2007, Catron Fortune est reconnu coupable du meurtre d'Erwin Margaritin par la justice néerlandaise. Il est condamné à 21 ans de prison. Mais ça ne fait pas avancer notre affaire. Les Hollandais ne veulent toujours pas le livrer à la justice française. Et pourtant, les gendarmes français les relancent. Est-ce que vous pourriez faire des prélèvements sur la pierre qui a servi à tuer Mademoiselle Chauviret? Il y a possiblement un ADN dessus. Peut-être que c'est celui de Catron Fortune.
Ah, mais le problème, c'est que nous n'avons pas saisi la pierre. Hein. Elle ne figure pas parmi les scellés, je suis désolé. Nous n'allons pas pouvoir répondre favorablement à votre requête. Hein.
Ils n'ont pas saisi la pierre qui a servi à tuer Angélique. Mais c'est dingue! Ils l'auraient sans doute fait si la victime était néerlandaise. Une Française, ils n'ont pas jugé utile de le faire. C'est fou! La solidarité européenne, c'est pas pour demain. Et les mois s'écoulent, pendant lesquels les Français n'ont toujours pas accès au principal suspect du meurtre d'Angélique. Alors qu'il est là, à quelques kilomètres, à la prison de Pointe-Blanche. Jusqu'à ce que finalement, en mars 2008, c'est-à-dire presque 2 ans après le meurtre, un juge français soit enfin autorisé à aller l'interroger. Avec un résultat décevant. De quoi vous m'accusez, là? Parce que j'ai été condamné pour un meurtre, vous voulez me coller tous les meurtres de la région? J'y suis pour rien, moi. Dans l'assassinat de cette fille, j'ai rien fait. Et comme les gendarmes n'ont aucune preuve à lui coller sous le nez, eh bien, ma foi, cet interrogatoire tant attendu n'a servi à rien. Impossible de le mettre en examen. D'autant que côté néerlandais, l'enquête n'avance pas non plus. Il s'agit d'un chef de gang. Les gens ont peur. Quand on les interroge, ils ne veulent rien nous dire. La peur des représailles, vous comprenez ? Et les mois s'écoulent encore, jusqu'à ce que fin 2009, la justice néerlandaise décide de classer le dossier. Vous avez bien entendu, les juges bataves renoncent à identifier l'auteur du meurtre d'Angélique, alors qu'ils ont un suspect en prison. C'est fou, mais c'est comme ça. Mais allez savoir si ça n'est pas une chance pour cette enquête. Car la justice française, elle, est toujours sur le coup. Et elle vient d'obtenir que le dossier d'enquête des policiers hollandais lui soit transmis. Côté français, donc, l'enquête continue. À partir de 2010, les langues commencent à se délier au quartier d'Orléans. Les gens commencent à parler.
Oh, moi, Cucci, je l'ai entendu dire qu'il avait tué des gens. Hein. J'en ai même vanté plusieurs fois. Et même une fois, il m'a parlé qu'il avait tué cette fille. Hein.
Et pourquoi est-ce qu'il l'aurait tuée?
Oh, ben parce qu'elle savait des choses sur lui.
Ah bon, quel genre de choses?
Eh bien, par exemple, que 2 gars de la bande de Cauchy avaient bizarrement disparu.
Et elle s'en était aperçue. Il l'aurait tué pour ça.
Ben voilà, c'est ça.
Sauf que ce sont des allégations sans preuve. Les gendarmes interrogent alors le frère de Cauchy, Chico.
C'est vrai, elle avait compris comment enfin il avait éliminé 2 de ses complices. Et lui, il devait le savoir, quoi. Il l'a peut-être tué pour qu'elle se taise, hein.
Si son propre frère le pense, alors, c'est que c'est du sérieux. Et ça fait 2 meurtres de plus, au passage. 2, plus 1, plus 1, plus 1, ça fait donc au moins 5 meurtres attribués au même Cucci, qui serait donc un tueur en série. D'autant que les gendarmes pensent qu'il a pu tuer jusqu'à 17 personnes. Bref, après de trop longues années d'enquête, Le juge d'instruction français considère qu'il a assez d'éléments pour mettre Catherine Fortune en examen pour acte de torture et assassinat sur la personne d'Angélique Chauviret. 9 ans, 9 longues années que la famille d'Angélique attendait ça. Mais lui, devant le juge, est-ce qu'il avoue ? Tu parles ? Je reconnais que je la connaissais. Je l'ai croisée dans des soirées, ça c'est vrai. Mais c'est tout. Pourquoi voulez-vous que je l'ai tuée ? La suite est à peine croyable. Tandis que l'instruction française se poursuit, en janvier 2016, Catherine Fortune est extraite de sa prison de Pointe-Blanche, côté néerlandais, pour une visite médicale. Et le fourgon pénitentiaire tombe dans une embuscade. Ta 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 ta. Et badaboum, il s'évade. Le chef de gang a toujours des amis. Et bien sûr, on ne le retrouve pas. Enfin, pas tout de suite. Il faut 1 an et demi pour le localiser à Saint-Kitts-et-Nevis, une île située à 300 km au sud de Saint-Martin. Son arrestation est musclée. Mais ouf, le voilà de retour en prison. On va pouvoir le juger. Enfin peut-être, car le 6 septembre 2017, l'ouragan Irma ravage les Antilles. À Saint-Martin, il fait 10 morts. Et
la prison de Pointe-Blanche a été ravagée par l'ouragan. 250 détenus ont profité pour s'évader.
Mais c'est pas vrai. Il s'est quand même pas encore évadé. La réponse est non. Ouf. La plupart des prisonniers ont pris la poudre d'escampette, mais pas lui. Conscient que ça s'est joué à pas grand-chose, les autorités néerlandaises décident alors de le transférer dans une prison de haute sécurité aux Pays-Bas. Le procès de Catherine Fortune s'ouvre enfin en octobre 2020 devant la cour d'assises de Basse-Terre en Guadeloupe. Sauf qu'il n'est pas là. Il est toujours dans sa prison en Hollande. Il sera donc jugé par contumace. Et les parents d'Angélique non plus ne sont pas là. À cause de ce fichu Covid, on ne les a pas laissés venir en Guadeloupe. Ils vont suivre le procès en visioconférence depuis le tribunal d'Angers. Donc pas d'accusés, pas de partie civile et pas non plus de journalistes. Toujours à cause du Covid. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et moi, du coup, je peux pas vous le raconter, ce procès. Je peux vous dire qu'à la fin, l'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle et que finalement, Catherine Fortune est reconnue coupable de l'assassinat d'Angélique et condamnée à 30 ans. Et les autres meurtres ? Les Hollandais pensent qu'il a tué au moins 10 personnes de plus. Sera-t-il jugé pour ça ? Au regard du déroulé de cette affaire, on peut en douter.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.